Il est tout juste midi. Bonjour à tous et bienvenue à La Grande Table, une émission réalisée par Philippe Baudouin, préparée avec Raphaël Bourgois, Jeanne Aléos, Clémence Marie et Boris Pinault. La Grande Table, c'est jusqu'à 13h30, deux parties qui entremêlent la culture et les idées. Et au milieu, c'est le journal de 12h30, présenté par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Pour la première fois en Grèce, un sondage donne le oui très légèrement en tête, donc par rapport au non. Par ailleurs, le FMI a publié un rapport imprévu cette nuit qui réduit de 2,5 à 0% ses prévisions pour la croissance grecque cette année et qui prédit que la Grèce aura besoin d'un nouveau plan d'aide européen de 36 milliards d'euros dans les 3 ans. On verra évidemment où on en est à maintenant 2 jours de cette consultation essentielle. En France, le directeur général d'Uber France annonce la suspension ce soir d'Uber Pop, une décision prise selon lui dans un esprit d'apaisement, de dialogue avec les pouvoirs publics. Le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique de retour à Vienne ce matin après une visite à Téhéran, il affirme que les deux parties ont maintenant une meilleure compréhension sur leur coopération. La Russie prédit un accord entre l'Iran et le groupe 5+1 dans les prochains jours. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, demande asile à la France dans une lettre ouverte à François Hollande, publiée aujourd'hui dans Le Monde. Mais à l'instant, l'Élysée vient de rejeter cette demande d'asile. On y reviendra avec Marie-Pierre Vérot. L'invité du journal, ce sera Marielle de Sarnez, vice-présidente du Modem. Voilà pour les titres. C'est à vous, Caroline. La Grande Table.
La Grande Table, dernière de la saison, Antoine, dès lundi, c'est Maëlys Bessery qui sera l'hôte pour un mois d'une grande table estivale. En attendant, nous avons voulu pour cette dernière faire honneur au titre de cette émission avec une première partie entièrement dévolue aujourd'hui à la cuisine et à la gastronomie, comme il nous arrive de le faire de temps en temps. Les grands chefs Alain Passard, Pierre Gagnère, Michel Brasse, Olivier Rollinger ou encore Bertrand Grébeau se sont déjà succédés au micro. Mais nous l'avons fait cette fois en nous déplaçant, profitant de la toute récente ouverture dans le palais de la Monnaie de Paris, Quai Conti, dans le 6e arrondissement, du nouveau restaurant d'un chef triplement étoilé au Michelin. Un nouvel écrin pour ce haut lieu de la gastronomie, si jusque-là rue Troyon, à 2 pas de la place de l'Étoile. Un lieu de toute beauté, baigné de lumière, qui en ferait rêver plus d'un, à commencer par l'heureux propriétaire des lieux lui-même, à savoir Guy Savoy, qui nous a reçus dans ses salons et qui nous a ouvert sa spacieuse cuisine. C'était il y a quelques jours par une très belle journée ensoleillée. Bonjour Guy Savoy.
Bonjour.
Mais merci de nous recevoir ici.
Bienvenue.
Dans ce nouveau restaurant Guy Savoy qui a ouvert ses portes il y a un mois et demi, le 19 mai dernier. On est au musée de la Monnaie, dans un bâtiment du 18e siècle, chargé d'histoire. Un bâtiment absolument magnifique, ouvert sur les quais de la Seine, avec vue sur la Seine, les arbres, les fenêtres immenses. Vous nous feriez une petite présentation du lieu ?
Alors ce lieu, oui, que j'ai visité pour la première fois en novembre 2009, j'étais entré par cette porte, là, vous voyez, qui est symétrique par rapport à la porte d'entrée actuelle. Et quand j'ai commencé la visite, je dirais, lors de cette visite, en fait, le restaurant se dessinait, quoi. Alors j'étais fasciné, bien sûr, par ce qui se passait à l'extérieur, et puis, bien sûr, impressionné par ce bâtiment, quoi, qui est, bon, 1775... La fin de Louis XV, chargé d'histoire, et puis ouvert sur le Paris, moi qui me touche, je suis pas le seul à être touché par ce Paris-là, quoi. Le Louvre, le Pont Neuf, le Pont des Arts, tout ça. Et curieusement, enfin, ce quartier qui a toujours été pour moi, en tout cas le samedi matin, un lieu de flânerie, et je n'avais jamais franchi la porte de la Monnaie de Paris, quoi. Et là, je vous imaginez le choc, bon, déjà l'escalier, en plus. Cette succession de salons, tout ça.
Mais c'est ça, il faut quand même imaginer non pas une seule salle de restaurant, mais une succession de salons de tailles différentes avec des plafonds parfois très hauts.
Celui-ci, est à 6,50 m,
ce qui
justifie la présence de ce lustre, style nouveau, qui est plus un feu d'artifice. qui illustre presque toutes ces boules comme ça qui ont l'impression d'exploser de chaque côté de la, je dirais, de la sphère centrale, et puis en plus qui se reflète comme ça dans les miroirs, vous avez l'impression d'avoir, ben oui, un bouquet final de feux d'artifice.
Pour ouvrir cet endroit, Guy Savoie, vous avez fait un certain nombre de travaux, aidé oui. par l'architecte Jean-Michel Villemotte,
Absolument.
Qui a pensé le lieu avec vous.
Qui a pensé le lieu. Voilà, surtout lui. Moi, j'ai adhéré très très vite parce que le parti... Jean-Michel, tout de suite, il a cette capacité de piger les lieux et les espaces très très vite. Il m'a dit, écoute, on va faire un lieu très très sombre pour que tout de suite l'attention des convives soit tirée par la table et l'extérieur. Et en fait, c'est ça, en fait. On entre dans l'antre. Et après, ben, tout se passe sur la table et à l'extérieur.
C'est un rêve ici pour vous.
C'est un rêve, oui, c'est un rêve. Lors de la première visite, je vous dis, ce restaurant, je l'ai... En fait, au fur et à mesure que j'avançais, à chaque pas, je le dessinais, ce restaurant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aime... Bien sûr qu'il y a, il y a un bien-être formidable, mais... 5 ans et demi après, je n'ai pas découvert un nouveau lieu. Quoi. Je l'avais senti et imaginé.
Et vous n'êtes pas déçu maintenant
non, pas
que vous
tout.
Avez ouvert votre restaurant.
Pas du tout.
Vous venez de la rue Troyon, Guy Savoie, où vous aviez 60 couverts.
Voilà.
Ici, vous avez gardé le même nombre de couverts.
Ici, voilà, ici, on est passé à 65. Voilà, c'est la même chose. Vous voyez, c'est un lieu spacieux. Donc, vous voyez, les murs sont
très foncé déjà,
voilà, et puis
gris foncé noir, là, et ce qui frappe c'est qu'il y a des œuvres d'art sur les murs.
Assez fortes, oui, absolument, très fortes, prêtées par François Pinault, donc de la collection Pinault, là-bas vous avez un magnifique Gupta, ici Bernard Frise, de magnifiques photos de Sugimoto.
Ça veut dire que pour vous, le lieu doit accompagner nécessairement les plats que les convives
Absolument.
Mangent.
Absolument. À table, on a besoin de cet environnement. C'est-à-dire qu'il participe au bien-être. Moi, très souvent, le bien-être, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. On le ressent. C'est à nous à faire en sorte que le lieu soit suffisamment, je dirais, riche en sensations, je dirais peaufiné, pour que les convives se sentent bien, mais sans l'expliquer. Vous voyez, quand vous êtes, souvent, vous êtes au concert, il y a des moments sublimes que vous ne pouvez pas expliquer. L'orchestre est performant, les solistes sont en état de grâce, le public reçoit ça, et il y a une espèce de communion qui fait que tout se passe bien et il ne faut surtout pas l'expliquer.
Quand on vous entend parler, Guy Savoie, on entend le plaisir, on entend l'enthousiasme, on entend la passion. Vous avez publié un livre il y a quelques semaines qui s'intitule « Savourer la vie ». Il faut aimer la vie pour être un chef cuisinier.
Pour être cuisinier, bien évidemment. Quoi, parce que aimer la vie, pourquoi ? Parce qu'il faut aimer... Oui, il faut aimer se faire plaisir, il faut aimer faire plaisir, il faut aimer les gens qui cultivent, qui élèvent, qui cueillent, qui pêchent, il faut aimer les gens qui sont autour de vous, qui participent à cette fameuse magie de la transformation. Magie, pourquoi ? Parce que tous les produits qui arrivent chez nous sont bien sûr comestibles, mais nous, parfois, en quelques secondes, on va les transformer en plaisir. Et il faut que tout ça fonctionne, quoi. Il faut que tout ça. Si on veut que les convives fassent un bon moment, il faut que toute cette chaîne, tous les maillons de la chaîne, savourent leur métier. Joël Thibault qui fait pousser les légumes, ou Madec, ou Taboriège qui élève ses huîtres et tout, s'ils sont pas en parfaite harmonie avec leur métier, avec leur activité, ils ne pourront pas faire les produits qu'ils font. Et si nous en cuisine, on n'est pas heureux d'avoir ces produits, mais on n'aura jamais envie de les transformer. Et si tout ce monde-là vit ça avec passion, forcément les convives autour de la table vont le ressentir de la même manière. C'est pour ça que tout est important.
Dans votre ouvrage, vous dites profession aubergiste. D'autres collègues à vous, grands cuisiniers, 3 étoiles Michelin qui plus est, parlent parfois, même s'ils sont modestes, mais d'un travail d'artiste ou d'orfèvre. Quelle différence feriez-vous entre les trois ? Artisan, artiste, aubergiste ?
Moi, dans le mot artisan, il y a un côté besogne, mais besogne noble. Hein, c'est-à-dire, c'est bien souvent des gestes répétés, répétitifs, bien sûr, associés à une sensibilité et à des envies. Mais ça reste du travail, et ça reste du travail acharné. Je dirais, ce travail acharné, en plus, il est rythmé par des heures fixes. Qui sont l'heure du déjeuner, l'heure du dîner. Donc ça, rien que ça, déjà, il y a un côté besogneux. L'artiste, il a bien plus de liberté.
Parfois, on dit même militaire. On utilise le vocabulaire militaire, la brigade.
Mais moi, j'emploie jamais le mot brigade. J'emploie toujours le mot équipe. Le mot équipe, pour moi, est beaucoup plus adapté.
Et c'est là, en l'occurrence, vous avez 49 collaborateurs.
49 collaborateurs.
Plus 11 stagiaires et apprentis.
Absolument. Et tous ces gens, avec leurs aptitudes, leur capacité, font une équipe homogène. Tous ces gens très, très, très différents, avec des nationalités différentes, des cultures différentes, une espèce d'homogénéité qui se crée naturellement. Si un jour, il y a en permanence entre 12 et 15 nationalités différentes qui travaillent. Si on venait tous de Bourgoin-Jallieu, on aurait peut-être une forme de consanguinité. On a besoin de ces apports extérieurs, quoi.
Vous-même, Guy Savoie, vous vous nourrissez des contrastes. Vous venez d'évoquer Bourgoin-Jallieu, qui est votre lieu de naissance, à quelques kilomètres de Lyon, où votre père était jardinier, où votre mère tenait la buvette.
Jardin de ville.
Pas très loin du terrain de boule du village, du bourg. Je ne sais pas, c'était quoi, c'est une ville ?
23 000 habitants.
Ah bah oui, alors c'est quand même une ville à ce niveau-là. Voilà. Donc, vous avez grandi dans ce milieu-là, dans ce lieu-là, venez donc d'un univers plutôt rural, parce qu'autour de vous c'était rural, même si c'est une ville, c'était pas forcément très urbain. Et puis vous êtes venu à la grande ville. Là on est dans Paris. Autre contraste entre ruralité et urbanité. Autre contraste qui est important aussi pour vous, c'est la différence que vous pouvez faire au sein même des produits entre la terre et la mer, sur lesquels vous jouez en permanence. Pour vous, ces différents contrastes sont des terres nourricières, j'ai envie de dire ça comme ça. De quelle façon toute cette inspiration ou toutes ces origines qui sont les vôtres vous nourrissent aujourd'hui encore ?
Encore, mais moi encore, trop, c'est toujours. C'est toujours.
Encore, parce que de temps en temps, on a envie de s'en détacher quand même de ces origines-là.
Non, pas du tout. Non, je crois que c'est ces origines, c'est le c'est bien évidemment le socle, quoi. C'est là où j'ai pris conscience, un papa jardinier, donc j'ai pris conscience que les produits, c'était pas quelque chose de. C'était pas des générations spontanées, quoi. Ils ont leur histoire, ils ont l'histoire de leur variété, de leur espèce, et après, chaque produit, une carotte, elle a une histoire, quoi. Ces carottes, entre le moment où le jardinier l'a semée et le moment où il est repiqué, ensuite la récolter, il s'est passé plusieurs semaines et c'est pas une histoire forcément simple. Hein. Cette carotte, elle échappe à l'orage, elle échappe au vert, enfin à plein de choses. Donc quand elle arrive chez nous,
elle a une histoire, elle a un parcours, elle a un voyage.
Elle a un voyage. Donc ça, moi, je n'oublie jamais ça. Lorsque un produit arrive en cuisine, je sais qu'il a. J'ai un profond respect pour cette histoire et le travail qu'il y a cette histoire. Parce que tous ces produits, quand même, c'est lié largement au travail des hommes, à leurs observations et tout ça. Les variétés, les espèces ont évolué grâce à l'observation et au travail des hommes. Donc déjà, c'est vraiment très fort pour moi. C'est pour ça que j'ai un profond respect pour tous les produits, en commençant par la fameuse carotte, aussi bien que le homard. Et je dis toujours, il y a plus de noblesse dans un chou fraîchement cueilli que dans un homard surgelé. Mais tout ça, c'est mon enfance, quoi. J'ai pris conscience. Les premières morilles au printemps, les gens qui étaient fiers d'avoir la première tomate dans le jardin, enfin, toutes ces choses-là qui paraissent peut-être complètement futiles, mais il y a beaucoup de pays qui aimeraient avoir ces plaisirs-là. Il y a des pays où rien ne pousse. Chez nous, tout pousse.
L'un de vos plats phares, je dis bien l'un de vos, puisque nous allons revenir sur un certain nombre de plats, Guy Savoie, avec vous, c'est l'huître. L'huître en nage glacée. Il y avait des huîtres à Bourgoin-Jallieu ?
Non, mais j'ai découvert.
Vous avez fait tout un chemin aussi pour arriver jusqu'à chez vous.
J'ai quitté Bourgoin-Jallieu. Non, mais même à Bourgoin-Jallieu, c'est pour les fêtes de fin d'année, il y a des bourriches d'huîtres qui arrivent. Donc, c'est un produit très rapidement, moi, qui m'a fasciné. Et vous parlez de cette recette, c'est vrai que je vous ai. Alors, l'huître, j'adore.
Tous ceux qui l'ont goûté s'en souviennent encore.
J'adore le goût de l'huître. Et ce que je trouvais très inconfortable, c'était l'eau. C'est ça que j'ai essayé de faire une gelée, avec donner de la consistance à l'eau d'huître. Et la meilleure manière de la consistance à un liquide, c'est de faire une gelée. Voilà. Donc, tout en respectant le goût de l'huître, j'ai apporté du confort pour la dégustation. C'est tout. C'est que du bon sens.
Nous sommes dans le salon bibliothèque, c'est voilà. Ça, là, en ce moment, où nous sommes entourés de livres de guide Michelin.
Toute la collection.
Toute
enfin,
la collection.
Je pensais avoir toute la collection. Et un bouquiniste spécialisé juste en bas m'a dit qu'il m'en manquait un de 1939, qui était le Michelin a fait cette année-là, une version américaine. Alors je l'ai mis en charge de m'essayer de trouver cette,
en bas,
cette,
j'ai
version,
les
cette version américaine de 1939.
Des bouteilles de vin exposées sur les étagères. Et puis au-dessus de notre tête, une œuvre qui est une œuvre d'art réalisée par Fabrice Hibert avec, non pas en son centre, mais on va dire quand même en son centre, un artichaut. Ouais. Alors deuxième plafard de Guy Savoie. La soupe d'artichaut. Pourquoi donc l'artichaut? Qu'est-ce qu'il a de particulier
L'artichaut,
ce légume.
Fait partie de choses. Ma maman, qui sait pourtant que la soupe d'artichaut est mon plat, enfin, est l'un de mes plats, je dirais, signature, m'a avoué il y a 5 ou 6 ans, m'a informé, que lorsque j'étais bébé, ma purée de légumes préférée était l'artichaut.
Déjà original.
Voilà, donc vous voyez, donc allez chercher. Voilà, donc je pense que l'origine de la soupe vient de là. Voilà. J'ai dit, moi je vais être encore plus régressif, donc je vais passer de la purée à la soupe. Voilà, donc je suis revenu encore avant, voilà, donc, la soupe, et puis j'ai dit qu'avec un peu de truffe et du parmesan et surtout une brioche à côté. Donc en fait, tout ça est forcément relié à l'enfance, parce que la brioche, un adulte ne mange pas de brioche, sauf lorsqu'elle est bonne.
Vous avez ouvert il y a 2 jours, Guy Savoie, le 1er juillet, pas très très loin d'ailleurs
d'ici. Rue Mazarine, absolument.
Une boutique, goût de brioche.
Goût de brioche.
Mais c'est de la brioche sucrée, c'est pas la brioche
salée. Si, il y aura la brioche aux champignons, il y aura une brioche au parmesan, que je recommande à l'apéritif. C'est complètement l'enfance. Donc c'est des souvenirs d'apprentissage de pâtisserie. D'ailleurs, cette brioche feuilletée aux champignons qui accompagne la soupe d'artichaut à la truffe, en fait, c'était une volonté du cuisinier. Moi, j'ai commencé en pâtisserie et dans ce qui me dans les préparations qui m'ont le plus fasciné en pâtisserie, c'était justement une brioche feuilletée aux fruits confits. Et dès que j'ai commencé la cuisine, j'avais qu'une idée, c'était d'adapter ce dessert, quoi, cette brioche aux fruits confits, l'adapter, je dirais, façon cuisine, c'est-à-dire faire une brioche presque salée, quoi. Et c'est pour ça que, une brioche, pour qu'elle fonctionne, il faut forcément qu'il y ait du sucre, parce que c'est le sucre qui nourrit la levure et qui lui permet justement d'avoir cette légèreté. Donc il a fallu trouver la bonne proportion, enfin, arriver jusqu'au la quantité minima de sucre pour que quand même s'opère la réaction pour que la brioche lève, et après mettre ce qu'il faut pour que cette brioche soit salée. Et aujourd'hui, en fait, avec cette boutique, je reviens à mes origines, parce qu'il y aura une brioche aux fruits confits, il y aura une brioche aux pralines, il y aura une brioche aux abricots et pistaches, voilà, tout ça. Mais ça, c'est retour vers l'enfance. C'est pas vers le futur, c'est vers le passé.
Du lapin, vous enlevez de quoi faire de beaux filets. Sur le râble, sur les cuisses, vous en trouverez. Dans une poêle huilée, faites revenir ces filets. Salez-les, poivrez-les, mettez de côté. Vous désossez avec soin ce qui reste du lapin. Cherchez bien, raclez bien et ne laissez rien. Ajoutez-y sans retard le veau, le porc et le lard et le foie. Et tout ça, passez au hachoir. N'oubliez pas, je vous prie, de la cuire au bain-marie. Il vous faut de 2 heures à 2h30.
Savoir comment on travaille l'équilibre entre le produit de base, le matériau dont vous dites que c'est évidemment le plus important, la carotte, le homard, la tomate, l'artichaut, l'huître, ce qu'on retrouve d'ailleurs dans un menu qui est le menu produit.
Oui.
Vous proposez, on retrouve caviar, petit pois, bar, homard, soupe, veau, Saint-Marcellin, fraises. Les desserts, là, vous laissez un peu plus de suspense quand on regarde le menu. Donc comment on travaille à partir de ces produits-là, qui est le retour à la simplicité, à côté de l'enfance. Et une forme d'élaboration qui est aussi la patte du chef. Quand on regarde un autre menu qui est le menu innovation et inspiration, il y en a plusieurs. Il y en a un en 12 séquences, il y en a un en 18 séquences, où l'on trouve concassé d'huîtres, granité, algues et citron, saumon figé sur la glace, consommé brûlant, perles de citron, ou encore soupe d'artichaut à la truffe noire, brioche feuilletée aux champignons et truffe. Comment on travaille cet équilibre
là? Alors, il faut dire quoi? Bon. L'identité de la cuisine française, ce sont les produits. On a la chance d'avoir une nature généreuse qui nous donne des produits exceptionnels. Donc moi, ces produits, le rôle, je dirais même la mission du cuisinier, c'est de les magnifier, mais en respectant complètement, je dirais, leur originalité. C'est-à-dire on doit être original, mais sans oublier l'esprit. Spécificité de chaque produit. Quand je mange du bar, moi j'ai envie de mordre dans un morceau de bar. Et là, je serre même les écailles avec, parce que je me suis aperçu que les écailles croustillantes apportaient à une chair qui est un peu tendre, avoir ce croustillant des écailles, eh bien on enrichissait ce bar avec des consistances. Parce que la cuisine, c'est pas simplement le goût, Et c'est aussi ce que j'appelle le goût physique. C'est tiède, c'est chaud, c'est brûlant, c'est mou, c'est croustillant. Tout ça participe au plaisir. Les températures et les consistances. Et, exemple là, aujourd'hui, il fait très chaud. De quoi avez-vous envie? Une glace, un sorbet. Qu'est-ce qui va vous procurer du plaisir d'emblée? Ça va être la température. Avant même de vous interroger sur le goût de la fraise, de votre sorbet fraise, le froid va déjà vous apporter du bien-être. Et c'est tout ça fait partie du goût. Alors lorsqu'on a la température, lorsqu'on peut travailler sur les températures, les consistances, et bien sûr en plus le goût, parce que le goût doit être là. C'est pour ça que nous allons parler des desserts, sur les parties desserts. En ce moment, il y a un dessert autour de la fraise, mais il y a une gelée de fraise, il y a une confiture de fraise, il y a un jus de fraise, il y a des fraises croustillantes, il y a un sorbet fraise et un granité fraise. Voilà, pour qu'on s'aperçoive que la fraise, c'est pas simplement un goût de fraise. On peut faire plein de combinaisons avec simplement de la fraise, mais en jouant avec des températures et des consistances.
Est-ce que vous nous emmèneriez dans vos cuisines pour aller voir ce qui s'y trame, sachant qu'on travaille déjà, et ce depuis 8 heures du matin?
Depuis 8 heures du matin, absolument, oui. Bon, c'est plus sur la période. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ajoute le plat de tomates et plein de consistances et de températures différentes.
Pousse la porte de la cuisine.
Il y a également les petits pois. En ce moment, c'est à fond sur les légumes. L'été, c'est les légumes. Est-ce qu'on peut me dresser une tomate, s'il vous plaît, là? Oui. David?
Oui.
Première chose qu'il faut dire quand même d'Issalvois quand on entre dans votre cuisine, c'est qu'elle est très grande.
Elle est très grande, très spacieuse, très lumineuse. Parce que vous avez des fenêtres de chaque côté. Donc on a... Pour un appartement, on dirait, il est traversant. Donc la cuisine est traversante. Voilà. Et...
Ça aussi, ça doit vous rendre heureux par rapport à la croyance.
Oui, ça doit surtout nous donner encore plus de possibilités. Parce que, bien sûr qu'on est le pays de la diversité des produits, mais il faut du monde. Hein. Vous voyez, simplement, aux entrées froides, là, il y a 2, 4, 7 personnes qui sont là juste pour les entrées froides. Vous voyez. Alors c'est vrai qu'en ce moment, c'est l'été et que les entrées froides sont plus importantes que les... Alors vous voyez... Là, ce plat autour de la tomate que David va terminer. Donc, on a combien de variétés de tomates, là, David? Bon, il y a la noire de Crimée, il y a la cœur de bœuf. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vas-y, dis-nous un peu.
Noire de Crimée, cœur de bœuf, tomate ananas.
Oui.
Il y a des torino.
Oui.
Là, il y a de la menthe fraîche. Voilà, il y a de la tomate grappe également, pour faire un tas. On est sur 6-7 variétés. Voilà. Rien qu'en tomate rouge, on a 3 variétés. Une pour le goût, une pour les tartes et une que pour le tartare.
Voilà, donc je vous disais les consistances. Là, on a un tartare de tomate, on a un coulis de tomate. Là, on a des petites... ça, c'est un clin d'œil à la Monnaie de Paris. On a des petites pièces de tomate. Et ce sera servi en fait avec une tarte à la tomate, donc qui sera tiède. Hein. L'esthétique, bien sûr, la diversité des couleurs, des consistances, des températures. Tout ça participe au goût.
Comment vient une recette comme ça? Le matin, vous vous réveillez, vous dites,
c'est une envie.
C'est ça que je vais faire aujourd'hui.
C'est une envie, c'est de voir un produit et puis de se dire, tiens, voilà, j'ai envie de le manger comme ça.
Il faut que vous ayez envie de le manger.
Ah oui.
Par exemple, vous ne pouvez pas cuisiner un produit que vous n'aimez pas.
Impossible. Bon, par exemple, je n'ai pas une passion pour les poivrons, il n'y a aucune recette ici avec les poivrons.
Donc, le monsieur travaille la recette à la tomate, entrée
donc,
froide.
Il y a deux niveaux d'assiettes. Hein, le convive va commencer à déguster la première assiette et après on viendra lui enlever cette première assiette et la tarte à la tomate sera servie à ce moment-là pour manger les pièces de tomate.
Voilà. Entrons dans une autre pièce
cuisine. Là, c'est la partie où il y a le fourneau. Alors, le fourneau, il ne se passe pas grand-chose. Hein. Le matin, bon, vous avez vu, c'est surtout des préparations, c'est surtout des puces, parce que les choses importantes ne commencent vraiment que lorsque les convives sont là, puisque tout est cuit à la... même pas à la dernière minute, à la dernière seconde. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il y a plus... On s'affaire plus dans les lieux de préparation que dans les lieux de cuisson. Vous voyez qu'il est... Le fourneau est...
Sont sur le feu.
Ah, Mathia, qu'est-ce que tu as là?
Là, on a des crèmes de calottes citronnelles.
Oui, ça, c'est pour la bouche. Oui, ça, c'est un bouillon de langoustine. Oui. Hein, vous voyez, c'est toutes les têtes de langoustine qu'on est en train de faire cuire.
Là, j'ai un jus rouget.
C'est un jus de rouget avec toutes les arêtes du rouget. Ici, c'est quoi, là?
Ici, c'est le bouillon de langoustine fini.
La bouillon de langoustine
fini.
Attention, mets-moi un petit coup de fouet là dans les carottes que c'est en train de...
Qui sait, vous nous parliez de la fraise. On la prépare pas à 10h du matin, la fraise?
Ah, la fraise, c'est en pâtisserie. Non, là, je sais pas. Ah si, peut-être, on peut aller voir. Tiens, on va descendre.
Ouf, on est pris par l'odeur.
Oui,
hein,
ça sent la brioche ici.
Ça sent la brioche.
Ça sent la brioche. Monsieur Boudard, ah ben, regardez les fraises. Hein? Bonjour. Et où, monsieur? Christian Boudard. Chef pâtissier chez nous depuis des années. Qui est l'heureux propriétaire de goûts de brioche qu'on a ouvert avant-hier. Voilà.
Elles sortent du four.
Elles sortent du four.
Et il y en a deux là, qui sortent du four à l'instant.
Quel goût elles ont, celles-ci?
Celles-ci sont aux fruits confits. On en a à la praline rose.
Ça va être bon, ça.
T'as pas des fraises croustillantes là? Tu peux montrer les fraises croustillantes, s'il te plaît, Valentin? Fraises croustillantes. Voilà comment on a rendu les fraises croustillantes en les coupant très fines. Et allez, goûtez. Voilà.
Comment vous avez fait ça? Elles sont séchées.
Voilà, elles sont séchées tout simplement au four. Elles sont coupées, très fines, très fines. Et après, on enlève.
Je m'en accorde une deuxième.
Bien sûr. Mais on peut en prendre. Regardez, moi j'en prends plusieurs comme ça.
Mais parce que c'est vous.
Plus... Mais non, mais allez-y. La gourmandise.
Ah non, mais alors moi, la gourmandise. Hein? Voilà.
Ouais. Donc on n'est pas habitué à manger les fraises comme ça. Mais c'est important dans une préparation de fraises, voilà, d'avoir les fraises comme ça. C'est les écailles du bar. On apporte le croustillant. Voilà.
Merci beaucoup, Isawa.
Merci à vous. Et bon appétit.
Voilà un peu de gastronomie, enfin, avec Guy Savoy. Et puis, c'était notre façon de faire le relais aussi avec la grille d'été, puisque dès lundi et tout l'été à midi, c'est l'ami Alain Crugère qui prendra le relais avec On ne parle pas la bouche pleine, et ce, durant 8 semaines. Dans un instant, c'est le journal et la suite de la grande table.